Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité avec à suivre dans un instant vos réactions et vos commentaires sur les suites de l'affaire des contrats frauduleux relatifs à l'acquisition d'un avion présidentiel et à l'achat de matériel militaire au Mali. Le gouvernement s'engage à sanctionner les personnes liées à ces contrats. Il a officiellement saisi le procureur de la commune 3 de Bamako qui, dit-on, a ouvert une information judiciaire. Les autorités ont aussi annoncé toute une série de mesures, des mesures attendues notamment par le FMI, des bailleurs internationaux du Mali. Toutes ces décisions qui font suite à la publication de deux rapports réalisés respectivement par le vérificateur, le bureau du vérificateur général et la Cour suprême, des rapports mettant en cause ces contrats. Notez également que plusieurs acteurs de la vie politique malienne avaient exigé des sanctions contre les responsables de ces irrégularités financières dénoncées dans ces rapports. Alors que pensez-vous de la gestion de ce dossier par les autorités maliennes? Quelles conséquences pour la vie politique du pays? 33 9 693 693 70. Abdoulaye est en ligne à Bamako. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Zéphirin.
Alors que pensez-vous des mesures annoncées par le gouvernement? C'est vous qui lancez le débat.
D'accord, ok. Par rapport aux mesures prises par le gouvernement, moi je pense que c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau en fait. Parce que moi, et puis l'immense majorité des Maliens sont d'accord avec moi pour dire que notre justice n'est pas du tout partiale. Moi, je pense qu'en premier lieu, le gouvernement devait tout faire d'abord, c'est-à-dire pour diligenter une enquête indépendante, c'est-à-dire diligenter l'enquête par un organisme totalement indépendant pour faire la transparence sur tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous voyons que les personnes incriminées, elles sont toujours là. Moi, je pense que dans un souci de transparence, ces personnes devaient d'abord démissionner, c'est-à-dire les personnes incriminées qui sont l'ancien ministre de la Défense et l'actuel ministre des Finances.
Mais quand vous parlez d'organisme indépendant, à quel organisme pensez-vous précisément? Parce que là, le gouvernement a saisi un procureur qui a ouvert une information judiciaire, donc la justice devrait pouvoir se mettre en ordre de marche.
Oui, bon, en fait, il y a eu beaucoup de précédents, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport aux administrations précédentes, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Ils ont fait des enquêtes, mais malheureusement, ça n'aboutit nulle part. Des personnes sont même arrêtées, ils médiatisent les coups, mais malheureusement, ça mène nulle part. Donc on se pose la question de savoir, est-ce que réellement la justice est indépendante?
Alors, mais qu'est-ce que vous appelez un organisme indépendant? Soyez un peu plus précis là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, moi, je dirais d'un commun accord, le gouvernement peut le déléguer. Mmh. Éventuellement, il y en a beaucoup d'organismes indépendants qui font ce genre de choses-là. Moi, je pense que le gouvernement, je suis transparent, je devrais le déléguer à ces gens-là d'abord. Mais serait-ce que pour montrer aux Maliens que les choses ont commencé à changer. Bon, maintenant, le procureur a ouvert une enquête, c'est vrai. Maintenant, moi, je pense qu'en premier lieu, les personnes incriminées, c'est-à-dire la Cour suprême et le bureau du vérificateur, ont incriminé des personnes, c'est-à-dire ont produit des preuves. Ils ne sont pas lancés là-dessus comme ça. Moi, je pense qu'en premier lieu, ces personnes devraient les entendre. Mais d'ailleurs, même le premier concerné, lui, il est silencieux jusqu'à présent, c'est-à-dire le président de la République lui-même. Lors d'une rencontre avec les partis d'opposition, il a dit que non, il n'est pas à la barre. Moi, je pense que le président devrait s'expliquer d'abord, c'est-à-dire dire au moins réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cet argent. Mais jusqu'à présent, le président ne l'a pas fait, il a toujours mis. Ça, la majorité des Maliens ne l'ont pas compris.
D'accord. Je rappelle quand même, Abdoulaye, que ce dossier a déjà fait quelques victimes, y compris dans le cercle rapproché du président que vous évoquiez à l'instant. Son conseiller spécial, Sidi Mohamed Kanyassi, a dû démissionner. Le directeur financier du ministère de la Défense a été licencié. À noter aussi la garde à vue de 48 heures imposée à Soumeilou Boubaï Maïga, ancien ministre de la Défense. C'était début octobre à la brigade financière de Nanterre en région parisienne. En tout cas, merci de votre appel, Abdoulaye, depuis Bamako. On va d'ailleurs rester à Bamako pour accueillir Badara. Badara, bonjour.
Oui, bonjour, Zéphirin.
Alors, qu'est-ce que cette affaire révèle des méthodes de gouvernance de votre pays? Parce que Abdoulaye mettait en cause déjà le sommet de l'État. Est-ce que c'est un avis que vous partagez?
Effectivement, c'est une analyse que moi je partage parfaitement. Parce que moi je pense que le gouvernement est en train de s'attaquer à une forme de corruption au niveau donc de la base. Or qu'au niveau du sommet de l'État, il y a une corruption vraiment qui est en train de gangréner tout le sommet de l'État au niveau du Mali. Et ça, c'est une situation vraiment que toute la population et la communauté est en train de déplorer. Donc c'est pour ce faire que moi, je pense qu'il est aujourd'hui opportun que le gouvernement prenne ses responsabilités et démissionne. Que le gouvernement du Mali, le Premier ministre et son gouvernement prennent leurs responsabilités et démissionnent face à cet état de fait. Chaque jour, on voit donc des coups de petits directeurs, de petits responsables donc des services qu'on est en train d'emprisonner ça et là. Pendant qu'au niveau du sommet de l'État, c'est toute une spirale vraiment de corruption qui est en train donc de gangréner et ternir l'image de notre nation.
Mais est-ce que vous portez des accusations qui sont assez graves? Avez-vous des éléments pour les étayer? Parce que il suffit pas simplement de dire tout le monde est corrompu et faire passer ça pour une vérité. Non.
Écoutez, je fais rien. 9 milliards, 100 millions de caution, 25 millions par là, c'est déjà trop. Les démissions qui s'en sont suivies, les limogeages qui s'en sont suivis, et des différents rapports du FMI, du vérificateur général de la Cour suprême, sont assez évocateurs par rapport à ce qui est en train de se passer. Peut-être, techniquement, nous ne pouvons pas donner une preuve à la date d'aujourd'hui, mais suite à l'ouverture donc, d'une enquête aujourd'hui, je pense que sous peu, nous saurons qui a fait quoi dans cette affaire.
Alors justement, pensez-vous justement des annonces faites récemment par le gouvernement qui a décidé, qui s'est engagé donc à sanctionner au regard des rapports qui ont été établis par le bureau du vérificateur et par la Cour suprême, et il a décidé de sanctionner, il a annoncé un certain nombre de mesures. Que pensez-vous des mesures qui ont été annoncées là récemment justement?
Ils sont en train d'annoncer au coup sur coup parce que la société civile est en train de dire, parce que la communauté est en train de dire, parce que les autres politiques sont en train de dire. Moi, je pense que le président de la République doit prendre ses responsabilités par rapport à cette histoire, faire une communication en français et en bambara pour que le Malien lambda vraiment puisse avoir le cœur apaisé.
Mais ça devrait être quoi? Ça devrait être quoi le message que vous attendez du président de la République?
En réalité, plus de 77% des Maliens ont voté pour le président.
Oui.
Aujourd'hui, nous sommes un peu surpris vraiment par rapport au silence du président. On voudrait qu'il parle.
Et qu'il dise quoi?
Qu'il dise vraiment qu'il est responsable ou il n'est pas responsable, il est au courant ou il n'est pas au courant. Maintenant que la justice fasse son travail. Parce que si lui doit parler après que la justice ait fait son travail, moi je pense que ce serait le médecin après la mort. On a besoin de l'entendre aujourd'hui, qu'il nous dise vraiment des choses réelles qu'on voudrait entendre. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous posez dans les grains de thé, dans les coins de rue à Bamako, c'est le sujet d'actualité. Et tout le monde aujourd'hui est un peu frustré par rapport aux suffrages qu'il a accordé au président de la République. Et les responsabilités, c'est lui qui les a déléguées au gouvernement et aux différents ministres qui sont là. Donc s'il y a des choses qui se passent comme ça, il faudrait que lui-même vraiment, il parle à la population malienne pour que nous puissions avoir un cœur apaisé.
Le message est passé. Merci beaucoup, Badara, pour votre appel. On va voir ce qu'en pense Sama Kono, qui est au 09-693-693-70 au standard depuis Limoges. Bonjour, Sama Kono.
Bonjour, Monsieur Kouadio.
Oui, bienvenue. Que pensez-vous des analyses qui ont déjà été faites là, en début de débat? Quel est votre point de vue?
Oui, je pense que je partage l'avis de mes compatriotes qui se trouvent au Mali par rapport à la corruption qui existe au Mali.
Oui.
C'est une réalité qui est là. Et quand on parle de responsabilité du président de la République, moi je pense qu'il y a une première qui a été faite par rapport à la lutte contre la corruption.
Mmh.
Déjà, le simple fait de saisir le vérificateur général ainsi que la Cour suprême pour pouvoir fournir un rapport par rapport aux fraudes et aux surfacturations, moi je pense que c'est déjà un grand pas que le gouvernement a entrepris. Bon, d'aucuns me diront que c'est suite à la pression du FMI que tout ça est arrivé. Mais moi, je pense que toute chose commence par une première. Et ça, c'est de bon augure pour le Mali, et c'est de bon augure également pour nos hommes politiques qui sont restés pendant très longtemps financés sur des faits de corruption. Si on essaie de voir le régime président du président Mobutu Sese Seko, il y a chaque fois eu des rapports qui ont été fournis par le vérificateur général. Et derrière, il n'y a jamais eu de saisie. des saisines de la part du gouvernement auprès du procureur, de qui que ce soit, ça a toujours passé sous silence. Et ce gouvernement, ces précédents gouvernements se servaient de ça comme moyen de pression sur l'ensemble des partis politiques qui les ont soutenus.
Mmh.
Donc moi je pense que le peuple malien doit se réjouir, c'est-à-dire qu'enfin, il y a une justice qui est en train de se mettre en place. Quand les gens disent que le président de la République doit se mettre à la barre pour prendre ses responsabilités, non, je dirais non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Nous sommes un pays démocratique, nous avons différents pouvoirs, et le président de la République, certes, il est à la tête de tous les pouvoirs, mais il faut passer par la justice pour pouvoir élucider tout cela.
Très bien.
Et moi, je trouve également que tout ce qui s'est passé par rapport à ces problèmes, je pense qu'il y a une pression derrière. Cette pression, c'est quoi? C'est de la part des institutions de Bretton Woods. Le FMI met la pression sur le Mali, comme quoi il y a eu des surfacturations, il y a eu des fraudes.
Mmh.
Mais monsieur Kouadio, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas au Mali seulement que le FMI fait des prêts, et c'est pas au Mali seulement qu'il y a des corruptions. Est-ce que ces pays-là, le FMI a jamais mis la pression dessus? Je dirais non. Donc les Maliens, les hommes politiques doivent se dire. C'est l'opportunité pour tout un chacun d'essayer de voir clair, de suivre pas à pas tout ce qui se passe au Mali. C'est très très important.
Bon, on a très bien compris, hein, Samakono. Vraisemblablement, les annonces faites par le gouvernement malien semblent vous satisfaire, puisque c'est un pas qui a été franchi, selon vous. Je rappelle aussi que cette affaire a déjà valu au Mali, effectivement, la suspension des aides budgétaires des bailleurs internationaux. Merci beaucoup, Samakono, de nous écouter. À Limoges, Lamine est à Bamako. Bonjour, Lamine.
Allô, bonjour.
Alors Lamine, voilà, la justice est saisie. Hein. Pensez-vous qu'elle pourra travailler en toute indépendance?
Oh, ben, moi je ne crois pas du tout. En matière de justice dans une république bananière comme la nôtre, moi je suis un disciple de Saint-Thomas. Je vais voir pour croire.
Oui.
En ce sens que les finances de la République du Mali ont fait l'objet de braquage de la part de ceux-là même qui sont chargés de les protéger.
C'est-à-dire?
La première sanction qui était, disons, la plus simple, devait être d'ordre administratif. C'est-à-dire le limogeage pur et simple des municipalités ou impliquées dans ces contrats que je qualifie de diable. Mais le président Ibeka a refusé de limoger certains municipalités qui font partie de la famille d'abord.
Mais Lamine, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais la liaison n'est pas de très bonne qualité. On va essayer de vous rappeler. Donc, on va interrompre cet échange. On va accueillir Mouna. On essaie de vous rappeler, Lamine. Restez avec nous. Mouna est à Bamako également. Bonjour, Mouna.
Oui, bonjour, Béchérin. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Je vais bien, merci.
Alors, quelle est votre perception de la gestion de ce dossier-là? Vous avez entendu déjà des avis en ce début d'émission. Quelle est votre perception des choses?
Écoutez, Zéphirin, moi, je crois que cette histoire d'enquête, c'est tout juste de la poudre aux yeux. C'est tout juste pour pousser le FMI à continuer à aider le Mali. Parce qu'il n'y a jamais de justice dans ce pays. Sous Amadou Toumani Touré, on a entendu dire que... on n'allait pas humilier des pères de famille qui ont détourné de grosses sommes. Ça, c'est Amadou Toumani Touré qui le disait en son temps. Il recevait le rapport du vérificateur général. Et on applaudissait. Il y avait une mise en scène à la télé. Ensuite, on disait, oui, voilà, le lendemain ou sur le lendemain, quand on commençait à s'inquiéter qu'il n'y ait rien eu, il disait, oui, voilà, vous ne comptez pas sur moi pour que j'humilie des pères de famille. Et je crois que Ibeka fera la même chose. Et lui, peut-être, il ne viendra pas à la télé nous le dire, mais on ne va pas humilier qui que ce soit.
Mais vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'il fera, Mouna, vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'il fera, puisque là, la justice est saisie, peut-être attendre que les choses avancent avant de porter un jugement, non? Vous ne pensez pas?
Béchérin, on attendra jusqu'au prochain mandat de Ibeka, parce que moi je sais que cette histoire de justice, les dossiers là seront dans un tiroir, personne ne va s'en occuper, on a dit, la communauté internationale va se calmer, parce que soi-disant, la justice fait son boulot. Mmh. La justice ne fera rien parce que le Mali, c'est un pays où la justice n'existe même pas. Elle n'existe que de nom. Et moi, je vous jure que d'ici 4 ans, à la fin du mandat de Ibeka, nous reviendrons sur ce sujet. Vous verrez les dossiers qui ont été traités et qui n'ont pas été traités. Parce que ceux qui sont mêlés à ce dossier sont dans l'entourage immédiat de Ibeka. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que Ibeka a diligenté une enquête ou bien qu'il a demandé à un juge de faire quoi que ce soit. Rien ne sera fait. Donc, moi, je crois que ces gens, c'est des criminels. Il y a beaucoup de diplômés maliens, de jeunes diplômés qui chôment, qui passent leur journée devant leur portail à faire du thé. Pendant ce temps, il y a des gens qui détournent des milliards dans ce pays. Aujourd'hui, on ne parle même plus de millions, mais c'est-à-dire les détournements se font en milliards dans ce pays. C'est scandaleux et je crois que le FMI et la communauté internationale doivent mettre la pression sur Ibeka pour que justice soit faite et qu'on nous dise les personnes, le nom de ces personnes qui sont mêlées à cette histoire, afin qu'on sache qui a fait quoi. Parce qu'on dit, qu'on a donné le dossier à la justice. Vous, vous pensez que nous, on est dupes? Nous, on n'est pas dupes. Ibeka, lui, il n'a qu'à savoir une chose. Ma famille d'abord et mes amis Borna.
D'accord,
on est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Et je suis énervée.
Oui, on a bien compris. Hein, vous avez poussé un coup de gueule. C'est aussi l'occasion dans cette émission de le faire sur des sujets qui vous touchent particulièrement. En tout cas, je vous remercie de votre participation. On va accueillir Charlie qui est en région parisienne. Bonjour, Charlie.
Oui, bonjour, Monsieur Zéphirin.
Bienvenue.
Merci bien. J'aimerais porter à l'attention de mon prédécesseur que le doute n'est pas permis, que le pessimisme n'est pas permis. Vous savez, dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin. Ibrahim Boubacar Keïta ayant été plébiscité par le peuple malien au sortir d'une guerre, je dis bien au sortir d'une guerre, pour son intégrité et sa volonté de réformer une nation qui n'avait plus d'institutions, il faut le savoir, ne sera jamais laissé entacher ni sa notoriété, ni son honneur, pas plus que celui des Maliens. La publication déjà des résultats de l'audit, en toute liberté et transparence par la justice, est une profonde innovation dans l'histoire judiciaire du Mali. Mais il faudrait savoir que la présomption d'innocence ne doit pas être la seule chasse gardée aux grandes nations. Il doit appartenir également au Mali. Et le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'est ni un préfet, ni un sous-préfet, pas plus qu'un un chef de département pour se mêler à la danse. Et s'il le faisait, on parlera plutôt d'influence. C'est pourquoi il s'est mis sans doute à l'écart. Et donner la tâche noble à la justice de faire ce boulot qui n'a jamais été fait dans le passé. Et je tiens à rappeler à tous mes compatriotes que 160 milliards, sinon plus de 160 milliards, sont portés disparus à ce jour lors de la liquidation de la Sotelma. Et j'aimerais un jour que mes prédécesseurs ou tous mes concitoyens demande alors à cet effet que justice soit rendue. J'aimerais que les FMI et la Banque mondiale puissent lever les petits doigts pour dire également que tout cela émanait des fonds public et des fonds privés de l'État malien.
Le message est passé, Charlie. Le message est passé. On va accueillir Mamadou, peut-être pour conclure cette émission. Mamadou, bonjour. Vous êtes à Bamako. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour monsieur. Et moi, je voudrais passer d'un exemple. Quand un directeur de département se rend compte qu'un de ses agents a commis une faute, il n'attend pas et il ne va pas chercher le procureur de la République pour faire une enquête parallèle. Et il prend les sanctions administratives qui s'imposent. Et ici, il y a deux processus qui sont en jeu. Il y a un procès administratif et un processus judiciaire. Le procès administratif, à mon avis, a été conclu par la publication des rapports que vous savez. Et déjà à ce niveau, on est capable de, en tant que chef de l'administration, de situer des responsabilités. Donc des sanctions disciplinaires, ne serait-ce que disciplinaires, devraient déjà tomber.
D'accord.
Maintenant, le procès judiciaire qui a été enclenché, oui, on va le laisser aller au bout, mais il ne faut pas aussi être trop confiant. Hein. Il faut rester vraiment sur
ses gardes.
Parce que le procureur aurait pu se saisir de l'affaire bien avant les bureaux de vérification. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait?
Oui, bon, vigilance, Mamadou. Mais on va conclure là-dessus parce qu'on arrive au terme de l'émission. Évidemment, demain.